cours d'économie.
À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à l'écoute de Eco d'économie sur Radio Capi. La société minière Kibali Gold Mine, qui exploite de l'or dans la province de Haut-Uele, se félicite pour avoir fait des sociétés qui l'ont côtoyé des millionnaires et leurs 6000 employés inscrits dans la classe moyenne congolaise. Le PDG de Barrick Gold, de maison mère de Kibali Gold Mine, l'a dit lors de la 52e conférence de l'entreprise à Durba. À l'initiative du pasteur Marcelo Tounassi, un réseau des hommes d'affaires chrétiens va voir le jour. Le lancement de ce réseau est prévu pour ce mardi à Kinshasa, avec déjà au moins 3000 membres inscrits. Le réseau reste ouvert à d'autres hommes d'affaires chrétiens, va nous expliquer le pasteur dans cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous. La plupart de ceux qui ont eu des marchés avec nous sont entrés dans la catégorie des millionnaires, mais ce qui nous importe le plus, ce sont les 6000 travailleurs de la société qui font désormais partie de la classe moyenne congolaise, base d'une économie riche. Ce sont les propos de Marc Bristow, PDG de Barrick Gold, maison mère de Kibali Gold Mine. C'était lors de la 52e conférence de presse qui s'est tenue dans la cité de Durba, dans la province du Haut-Uele. Écoutons les propos de Marc Bristow dans cette interprétation de Cyril Mutombo. Il est le directeur pays de Barrick Gold en RDC.
C'est que la plupart des personnes qui ont eu de grands marchés avec nous aujourd'hui, ils peuvent entrer dans la catégorie que vous êtes en train de vouloir définir. Et nous parlons de gros millions, ça peut être 30, 40, 50, 60, mais la question est-ce que c'est se compter seulement cet argent-là ou c'est plutôt c'est cette capacité-là d'avoir accès à ces sommes d'argent, les réinvestir, prendre davantage du risque et voir comment aller plus loin de l'avant. Le plus important pour lui au fait, c'est plutôt les 6000 personnes qui aujourd'hui s'identifient au niveau de cette société de Kibali. Ces 6000 personnes que vous voyez, chaque jour, elles viennent au travail à la fin du mois. Elles ont accès à un salaire, ils ont une couverture médicale, ils ont un certain nombre d'avantages, et ce sont ces personnes qui, aujourd'hui et demain, constituent ce qu'on appelle la classe moyenne. La classe moyenne constitue le fondement d'une économie riche. Elle constitue le fondement d'une économie que nous voulons millionnaire. Et c'est par là qu'il faut commencer. Et l'estime dit, c'est ce que nous sommes en train de faire, mais nous voudrons faire davantage.
Au-delà de toutes les belles réalisations de la société soulignées par le gouverneur du Haut-Uele, Christophe Nanga, présent à cette conférence, souhaite que la mine de Kibali et leurs produits soient gérés à partir d'Isiro, chef-lieu de la province. L'autorité provinciale veut que l'or exporté par Kibali transite par Isiro. Cela permettra à ce que la capitale du Haut-Uele puisse voir également son développement venir. Parlons à présent du lancement prévu ce mardi à la maison de l'entrepreneuriat ici à Kinshasa du réseau des hommes d'affaires chrétiens CBC en abrégé, une initiative du pasteur Marcelo Tounassi de l'église La Compassion. L'organisation regroupe déjà 3000 membres selon son initiateur et est ouverte à tous les opérateurs économiques chrétiens. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce réseau d'hommes d'affaires chrétiens? Le pasteur Marcelo Tounassi explique dans l'extrait de cette interview exclusive qu'il a accordée à Jocelyne Moussa Opondé.
Pour que les chrétiens soient unis dans les affaires et aussi pour que nous puissions nous entraider et avec le but de soutenir, d'investir dans les business des chrétiens. Parce que certains, ils ont des grandes idées, mais ils n'ont pas de fonds. Et aussi pour être un intermédiaire entre leur business et les grandes banques. C'est-à-dire, tu veux un crédit, toi, tu n'as pas le dépôt. Nous, on peut faire le dépôt dans la banque. Maintenant, tu payes le crédit, mais la banque aussi me rétrocède quelque chose parce que ce ne sera pas gratuit. Hein, parce qu'il faudrait que nous puissions avoir des entrées pour continuer à soutenir les autres. De deux aussi, nous aurons des moments où des stands d'exposition de leurs affaires pour qu'ils se connectent entre eux. Et il y aura 4 ou 5 intervenants qui vont parler de plusieurs domaines dans l'investissement. Comment tu peux garder la spiritualité malgré les affaires, comment tu peux être, parce que ce sera à l'occasion du mois de la femme, comment je peux être une femme et femme d'affaires, comment je peux prendre soin de mon mari, de mon business et de mes enfants, parce que certaines pensent que c'est impossible. Et nous allons parler aussi de l'apport de l'entrepreneuriat des femmes dans le développement de la RDC.
En plus bref, sachez que les ministres Julien Paluku de l'Industrie et Désiré Birianze de l'Entrepreneuriat Petite et Moyenne Entreprise ont inauguré samedi à Kinshasa la société Everything Service, la première usine de fabrication des cure-dents de marque Plus 243, la marque congolaise donc. Cette usine appartient à Madame Laetitia Mayu Mapanga de nationalité congolaise. Au cours de cette cérémonie, Julien Paluku a appelé les Congolais à s'approvisionner auprès de cette usine afin d'encourager l'entrepreneuriat local. Les activités minières sont paralysées dans le Nord Kivu à la suite de l'occupation par des rebelles du M23 de plusieurs localités stratégiques, mais aussi des axes importants d'évacuation des minerais en provenance de Masisi et de Walikale. À cela s'ajoute la fermeture du poste douanier de Bunagana, une situation qui oblige les exportateurs du secteur minier à transiter par deux pays avant d'atteindre le port de Mombasa au Kenya, leur destination finale, avec tout les conséquences qui s'ensuivent.
Écho d'économie.
Place à présent à l'invité de l'économie. Avec des dépenses toujours en hausse et des recettes moindres, les opérations financières de l'État congolais étaient encore déficitaires dans l'exercice budgétaire 2023. Le déficit 2023, tel que repris dans le communiqué du CREFDEL de la semaine dernière, était d'au moins 1,2 milliard de dollars américains, une situation qui questionne la crédibilité de la loi des finances 2023. Pour en parler, nous recevons Valérie Madianga, c'est lui le directeur général du Centre de recherche en finances publiques et du développement local CREFDEL qui avait publié ce communiqué. Il s'en entretient avec Cynthia Bachizina Bizana.
Valérie Madianga, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Alors le CREFDEL vient de publier un nouveau rapport et il en ressort que l'indiscipline budgétaire se creuse davantage. Est-ce qu'on peut en savoir plus?
Oui, je voudrais dire que nous avons évalué les niveaux d'exécution des opérations financières de l'État effectuées au cours de l'exercice budgétaire 2023. Et nous avons relevé que l'État a été déficitaire autour d'1,2 milliard de dollars. Pourquoi? Parce que d'abord, l'État a mobilisé moins de recettes, mais il y a eu plus de dépenses. Donc, le budget a été exécuté en déséquilibre. Pourtant, ce document a été présenté et voté en équilibre. Et nous notons aussi que les documents de base qui devraient servir de suivi d'exécution budgétaire, notamment le plan d'engagement budgétaire, le plan de trésorerie, n'ont pas été respectés au cours de cet exercice budgétaire. Troisièmement, nous avons relevé aussi que le pacte de stabilité budgétaire qui a été signé par le gouvernement pour stabiliser les cadrages macroéconomiques n'a pas non plus été respecté. Et c'est ce qui a fait en sorte que qu'on puisse enregistrer l'explosion des dépenses et il y a eu moins de recettes au cours de cette période.
Valérie Mandianga, ce n'est pas la première fois que le centre de recherche au CREFDEL publie un tel rapport. Vous avez l'impression que l'histoire se répète depuis maintenant quelques années?
Oui, l'histoire se répète.
À chaque cycle de la loi des finances, vous avez l'impression que l'histoire se répète?
Oui, dans ce cadre ici, l'histoire se répète. Et pourtant, notre pays s'est doté en 2011 de la loi relative aux finances publiques. Il s'en est suivi du manuel révisé d'ailleurs du circuit de la dépense publique qui réglemente au moins la gestion budgétaire. Mais nous avons l'impression que tous ces documents-là ne sont pas respectés, le contrôle a priori au niveau de la chaîne de la dépense ne fonctionne pas, et a posteriori, vous avez l'IGF qui devrait également, qui travaille au niveau des ordonnateurs avec la fameuse patrouille financière, ça ne marche pas non plus, parce que les comptables publics ne sont responsables de rien, et au niveau de la Cour des comptes, le contrôle ne marche même pas, c'est pourquoi vous allez constater que la majorité de ces dépenses-là qui ont explosé n'ont servi qu'à financer les institutions et les rémunérations. Et vous avez, pendant cette période, l'explosion des dépenses, par exemple, des élections qui ont été exécutées au-delà, donc avec un dépassement de plus de 50%. au cours de l'année 2020.
En guise de conclusion, vous recommandez la rationalisation des dépenses publiques, mais aussi un audit réalisé ou exécuté par la Cour des comptes. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté?
Oui, nous avons confiance en nos institutions. Vous savez que la loi des finances, c'est l'expression chiffrée de besoins de la population exécutée par le gouvernement. Lorsque ces documents ne sont pas exécutés, nous ne pouvons pas demain parler du développement. Et vous avez les administrations financières qui s'engagent au cours de l'exercice budgétaire avec le minimum à recouvrer, mais ces organes de l'État ne les recouvrent pas. Et à la fin de l'exercice budgétaire, il n'y a pas de sanction. C'est pourquoi nous pensons que ces responsables des administrations financières doivent être sanctionnés conformément à la loi relative aux finances publiques. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait un audit. Nous demandons à la Cour des comptes d'effectuer un audit exhaustif. Pourquoi? Parce que au moins chaque année, il y a des recettes qui ne sont pas recouvrées. Et les instructions relatives à l'exécution de la loi de finances demandent à ce que lorsque les recettes non recouvrées au cours de l'exercice budgétaire N-1 doivent être recouvrés au cours de l'exercice budgétaire N+1. Oh, ça fait plusieurs années, on n'en parle pas. Chaque année, au moins, vous avez des recettes de 2 milliards non recouvrées, 3 milliards non recouvrées. Est-ce qu'il faut laisser maintenant les recettes non recouvrées de 2023, qui s'élèvent à presque 5 milliards de dollars, non recouvrées? Je pense que non. Il faut d'ailleurs un audit d'abord pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais aussi, on doit respecter les cadres budgétaires. Il faudrait que tous les gestionnaires de crédit puissent respecter les cadres budgétaires pour permettre à ce que nous puissions parler du développement. Troisièmement, c'est pourquoi nous revenons sous le pacte de stabilité budgétaire. Pourquoi? Parce que ce pacte va nous permettre de gérer sur base caisse, de regarder qu'est-ce que nous avons comme recettes, comment nous pouvons les utiliser. C'est là où nous allons revenir pour parler de la rationalisation de la dépense publique en regardant ce qui entre et éviter trop de dépenses inutiles au niveau des institutions, des dépenses qui ne permettent pas de résorber, par exemple, la pauvreté, mais aussi le chômage. C'est pourquoi il faut une rigueur dans la gestion de la dépense publique. Et là, je crois que nous pourrons répondre aux besoins prioritaires de la population.
Valérie Mandianga, je vous remercie.
Merci, madame, pour votre invitation.
Merci, Sita Bachizi. Merci, Valérie Mandianga. Grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Ce numéro se referme, mais vous pouvez le réécouter au plaisir et en continu sur www.radiocapi.net.